Bienvenue à cette conférence de l'Institut des hautes études du monde religieux, Les religions en France, état des lieux et perspectives. Avec Mgr Beau pour la conférence des évêques de France, Monsieur le Président François Claveroli pour la Fédération protestante de France, Monsieur Anouark Bibesh pour le Conseil français du culte musulman et Monsieur le Rabbin Béros pour le Grand Consistoire de France. La conférence se déroule en deux parties. Dans un premier temps, l'état des lieux des religions avec notamment des éléments statistiques, et puis vient ensuite le temps d'évoquer les dynamiques en cours, les évolutions, les perspectives et également les défis auxquels chaque religion va être confrontée dans les années à venir. C'est Mgr Beau de la Conférence des évêques de France qui commence.
Je peux quand même dire un certain nombre de choses sur le nombre de séminaristes, le nombre de prêtres, le nombre de baptêmes ou le nombre de mariages catholiques qui sont des chiffres objectifs. Le deuxième élément qui va rendre ces chiffres faux, après j'espère quand même que vous écouterez les chiffres, mais le deuxième élément, c'est que on voit que l'Église, et en tout cas si je parle au nom de l'Église catholique n'a pas une existence qui serait en continu, c'est-à-dire par la prolongation de lignes statistiques que l'on projetterait vers l'avenir. Si on regarde par exemple les années, disons 75, juste après 68, on était dans une période qui, pour celui qui regardait dans un immédiat et de projection statistique, se disait, il y a un effondrement, il y a un certain nombre de prêtres qui quittent le ministère, il y a une liturgie qui est un peu variée parfois, et on ne voyait pas très bien où on en était. Or, ce qui est important justement, c'est de se dire, eh bien, en 75, ce qui commençait à apparaître, on ne savait pas ce que c'était. L'Église, telle qu'elle se vit en 2015, a commencé, il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui vitaux, en 2015, qui n'étaient que émergents en 75. Je pense par exemple à la naissance de la communauté de l'Emmanuel. Je pense à un certain nombre de communautés nouvelles, comme les Béatitudes, comme Fondatio, qui ont eu leur propre histoire après, avec des histoires positives et des histoires plus négatives. Il y a l'Arche, qui est née aussi à peu près à ce moment-là, avec Jean Vanier, les Petites Sœurs de l'Agneau. Il y a eu la communauté monastique de Jérusalem, les Frères et Sœurs de Saint-Gervais. Et je pourrais faire une liste extrêmement grande de ce qui n'était qu'émergent avec 5 ou 6 personnes en 75. Celui qui aurait voulu prolonger les lignes statistiques de ce qui se passait en 75, en se disant, ben voilà, il y a une perte du nombre de prêtres, il y a une perte de la pratique, aurait construit une courbe en chute et se serait dit, c'est fini. Et d'ailleurs, j'oserais dire que certains ont écrit des livres dont les titres sont un peu « Sommes-nous les derniers ?». Or, aujourd'hui, on découvre que ce qui est commencé à vivre en 75 a donné une force émergente, étonnante, et une vitalité à l'Église aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire que la dimension statistique est une dimension extrêmement faussée, mais qui en même temps a un élément important pour pouvoir se dire, ben voilà qu'est-ce qui est l'élément où nous en sommes. Pour vous dire quelques chiffres quand même, il faudra que vous m'arrêtiez à 7 minutes 5 parce que mon appareil n'a pas dû comprendre ce que je lui demandais. En gros, en nombre de baptisés, il y a 1 milliard 196 millions de baptisés dans le monde en 2010. Donc ça vous donne déjà un horizon, 5000 et quelques évêques. Globalement, à quelques pourcents près, on voit que en Amérique du Sud, il y a à peu près 28% de catholiques, en Europe 24%, en Afrique 15%, en Asie 10%. Mais je parle évidemment de toute l'Europe pour les catholiques. Je reviendrai sur la question de la France. 412 000 prêtres, 39 000 diacres permanents et 115 000 séminaristes. Voilà quelques chiffres qui vous disent quelques éléments de ce que peut être la relation à l'Église. Et cependant, l'Église, c'est un lieu où nous vivons d'une façon particulière dans chaque pays. À la fois, on est complètement dans la même vitalité, dans la même vie dans le Christ, en France, en Afrique, ou à Rio de Janeiro, ou en Argentine. Et puis, en même temps, il y a toute une manière dont notre foi se fait culture et a une manière de vivre sa propre dynamique à l'intérieur de chaque culture. Pour nous, c'est très important, cette dimension, la foi qui se fait culture. Une foi qui ne se fait pas culture est une foi qui ne trouve pas sa réalité et sa vérité. C'est d'ailleurs ça qui est étonnant, parce que si la foi ne se fait pas culture, ça veut dire qu'on reste dans un domaine isolé, qui sera un domaine du privé, un domaine de la réserve, mais finalement, qui serait la construction d'un communautarisme. C'est une question très importante aujourd'hui, dans la mesure où un certain nombre de politiques, et je suis obligé de le dire devant un sénateur, un certain nombre de politiques développent une peur du religieux, et cette peur du religieux demandant que le religieux revienne dans un niveau purement privé, est en fait une manière de créer un conflit et des tensions à l'intérieur de la société par un système communautariste. Et on voit qu'un certain nombre de politiques veulent régler le problème des religions en supprimant la question du religieux dans la vie de la société. Et que cela, c'est quelque chose qui va être facteur de conflit et de tension, là où l'expression du religieux, avec le respect des lois de la République, peuvent donner un vrai dynamisme. Attention, alors, simplement, pour continuer les chiffres, 271 000 baptêmes en un an, dont 21 000 d'enfants de plus de 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de baptêmes qui ne sont pas des nouveau-nés, mais qui sont au-delà pratiquement de 3 ans. Il y en a autant de jeunes de plus de 3 ans que de nouveau-nés. C'est plus simplement pour les nouveau-nés. Pour la confirmation, 45 000. Le nombre de mariages est à 58 000. Et ce qui est intéressant, c'est l'augmentation des catéchumènes adultes, puisque nous sommes passés de 2006, où il y avait de 2600 baptêmes d'adultes, à 3800 en 2015. Ce qui vous montre une progression de la demande de baptême d'adultes, avec en majorité une demande féminine, puisqu'il y a 66% de femmes qui le demandent. Et donc, pour terminer, il y a 12 000 prêtres en France et le nombre de séminaristes est à 645, ce qui est déjà un nombre sensible. Le nombre de diacres permanents est là encore en augmentation, puisque en 10 ans, nous sommes passés de 1880 diacres permanents, principalement mariés, à 2681 en 2014, ce qui vous montre à la fois la croissance et la dynamique de ce ministère au cœur de l'Église. Voilà.
Merci. Monseigneur. Je vous donnerai un peu moins de temps pour la deuxième partie.
Volontiers.
Merci beaucoup. Pasteur Claveroli, est-ce que vous voulez bien prendre la suite, s'il vous plaît, pour cette première partie ?
Voilà, donc je souscris à ce qui vient d'être dit sur la réalité des statistiques et finalement leur imperfection, dans la mesure où du côté protestant, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a une multiplicité d'églises, et que donc le travail des sociologues est un travail de recomposition, de reconstruction d'un chiffre qu'on n'arrive jamais à confirmer ou à vérifier selon les différentes études. Toutefois, un sondage, plusieurs sondages ont été réalisés, mais le dernier qui a été réalisé en 2009 révèle qu'en France, 2% de la population, un peu plus, 2,5% de la population se dit protestante. Alors vous faites le calcul, 2,5% de la population, c'est un taux faible, donc on est dans le contexte de l'ultra-minorité pour les sociologues, non pas d'une minorité, mais de l'ultra-minorité. Et par ailleurs, on constate une diversité de situations géographiques de ces protestants sur le territoire national et sur les Dom-Tom, donc la Guadeloupe, etc. De sorte qu'il est très difficile d'avoir une photographie bien nette de cette réalité. 2,5% de la population répartie en différentes familles protestantes. Il y a, on va dire, trois grandes familles protestantes. Comme toutes les familles, elles se chamaillent entre elles, donc à l'intérieur de ces familles, il y a des branches, etc. La première famille la plus importante est celle qu'on appelle la famille luthéro-réformée, donc l'ensemble des églises historiques issues de la réforme magistérielle, donc du XVIe siècle, magistérielle, c'est-à-dire portée par le magistrat. C'est le luthéranisme et le calvinisme d'Allemagne, de Suisse, d'Écosse, etc., qui a essaimé dans le monde européen et en France en particulier. C'est donc la plus grosse partie. La deuxième partie, c'est la famille évangélique. Et puis la troisième famille, qui est donc la famille pentecôtiste. On aura peut-être l'occasion de préciser ce que signifient ces termes, mais ces trois grandes familles sont constitutives de ce qu'on appelle aujourd'hui le protestantisme en France, et peut-être aussi d'ailleurs en Europe d'une certaine façon. Les évolutions, parce que là je vous parle d'une photographie de 2009, mais il est important de voir ce qu'il y avait avant et puis ce que nous observons aujourd'hui, parce que 2009 c'est loin. Avant c'était moins. Avant il y avait moins de protestants dans le pays. Après la guerre, on comptait 1% de la population, aujourd'hui donc 2,5%. Et depuis 2009, deux éléments nouveaux apparaissent au plan de l'observation sociologique du fait religieux protestant. C'est premièrement l'augmentation de la partie familiale évangélique, et on reviendra sur ce terme, et puis d'autre part, l'apparition d'une recomposition du protestantisme à travers le fait culturel et le fait de la migration, c'est-à-dire que le protestantisme devient, comme je l'avais dit quand je suis arrivé à la Fédération protestante de France, mais d'autres me l'avaient dit avant moi, le protestantisme devient véritablement multicolore, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire africain, asiatique, arabe, latino-américain, et puis culturellement, donc bigarré, varié, au plan socio-professionnel complètement divers, de sorte qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il y a un profil type du protestant, celui qui est pourtant ancré dans la mémoire de beaucoup de Français, vous savez, ce fameux protestant blanc, très diplômé, très ennuyeux, marié avec beaucoup d'enfants, pas 11, mais au moins 3, 4, 5, quoi. Alors, ce profil-là n'existe plus. Et comme vous êtes là pour recevoir des informations, eh bien, sachez-le, ce profil-là n'existe plus. Alors, moi, je suis un des derniers survivants de ce profil-là. Mais je n'ai pas 11 enfants, j'en ai que 3. Le fait est qu'aujourd'hui, le protestantisme est en recomposition. C'est le terme qu'on emploie pour dire quelque chose d'assez étonnant, difficile à décrypter, mais positif. Puisqu'à ce moment-là, la diversité culturelle, théologique, spirituelle, confessionnelle, liturgique produit du nouveau, produit quelque chose qui n'existait pas avant. Et je termine, parce que j'aurai droit à d'autres minutes après.
Absolument.
Je termine en disant que l'un des enjeux précisément devant lequel se trouve placé le protestantisme, en France en particulier, c'est celui de son inculturation et de la réussite de cette inculturation, puisque vous savez que le christianisme, de manière générale, est devant un double risque, celui de l'exculturation, qu'avaient déjà repéré les sociologues, un culte sans culture, un culte hors sol, et c'est la tentation, on va dire, évangélique, extrême, peu importe la culture dans laquelle on est, l'important c'est de porter le message, ou bien alors la disparition dans la culture, l'adaptation, l'assimilation totale qui fait que le christianisme n'a plus de saveur, n'a plus de goût, ne se repère plus, complètement intégré et disparaît dans finalement le tout qu'est la société française. Donc entre ces deux tentations, il y
y a un chemin qui est celui de la réussite d'une recomposition positive et d'une fidélité à sa vocation, mais sur la vocation, j'y reviendrai aussi tout à l'heure.
Merci, monsieur le pasteur. Vous devez effectivement gagner du temps pour la suite. Monsieur le président du CFCM.
Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce qui nous est demandé, c'est de donner quelques statistiques, faire un peu la cartographie de ce qu'on appelle l'islam de France. Je ne dirais pas que les données que je vais présenter sont fausses, mais elles sont plutôt vraisemblables, on va dire, puisque effectivement, on n'est pas sûr de l'exactitude à 100% de ce qu'on avance, dans la mesure où il n'y a pas de statistiques ethniques et encore moins religieuses. Mais on a quelques indicateurs intéressants qu'on peut partager. Bien sûr, en termes de population des musulmans en France, on parle généralement de 5 à 6 millions de musulmans en France. Leur niveau de pratique est relativement variable. On parle parfois de deux catégories, les musulmans, je dirais, de confession musulmane, enfin les citoyens ou les personnes de confession musulmane et d'autres personnes qui sont de culture musulmane, entre guillemets. Donc on fait cette petite distinction par rapport au niveau de pratique. Mais en général, les musulmans sont relativement pratiquants par rapport à leur propre religion sur un certain nombre d'indicateurs révélateurs, on va dire, enfin, peut-être au niveau de la pratique ou du respect des cinq prières, par exemple, quotidiennes. Il y a peut-être 50 à 60% qui respectent cette prérogative ou ce pilier de l'islam. Et concernant, par exemple, le respect du ramadan, là, la proportion peut être un peu plus forte, peut-être 60 à 70% des musulmans qui respectent le ramadan, sachant que dans certains pays musulmans, moi-même je suis originaire du Maroc, au Maroc, le respect du ramadan, il atteint parfois les 99% des cas. Donc en France, peut-être 60 à 70%. Concernant le troisième pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, il faut savoir qu'il y a à peu près, donc là aussi ce sont des statistiques, mais là qui sont vérifiées, il y a 30 000 pèlerins qui partent tous les ans, en gros, de la France. Et il faut noter que c'est beaucoup plus que les pèlerins qui partent de pays musulmans. Par exemple, le Maroc, l'Algérie, etc. L'Arabie Saoudite a dû définir des quotas parce qu'elle ne peut pas accueillir, je dirais pas toute la misère du monde, tout le monde, tous ceux qui veulent accomplir le pèlerinage. Et donc, il y a des quotas, et ces quotas donnent lieu à des tirages au sort dans chaque pays. Et par exemple, le Maroc, l'Algérie, il y a un quota de 25 000 pèlerins, alors que la France, il y a 30 000 pèlerins qui partent tous les ans. Concernant le nombre de mosquées, aujourd'hui, on parle de 2400 à 2500 mosquées ou salles de prière. Là aussi, il faut faire une petite nuance. Des vraies mosquées avec un minaret, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être à tout casser 30, 40, voire 50 maximum. Mais la plupart, ce sont des salles de prière qui sont parfois dans des conditions, dans un état qui n'est pas forcément très très beau au niveau architectural. Ce sont des salles, des anciennes maisons individuelles qui ont été transformées en lieu de culte. Mais par contre, il y a un mouvement, les 2500 ou 2400 mosquées ou salles de prière, c'est l'existant. Et puis il faut savoir qu'il y a 200 à 300 projets de construction de mosquées en cours qui ne sont pas forcément donc, officiellement inaugurés. Et dans ces projets-là, on trouve une nouvelle caractéristique de mosquées. À un moment donné, dans les années 80 et les années 90, il y avait un tel déficit de lieux de culte qu'on a commencé à construire ce qu'on appelait à l'époque des mosquées cathédrales. C'est les grandes mosquées d'Évry, de Lyon, etc. Enfin, la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, elle date de 1920, donc du début du XXe siècle. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais dans les 200 à 300 mosquées aujourd'hui, on retrouve plutôt des mosquées à taille humaine, entre guillemets, avec une dimension un peu plus locale, voire régionale, et avec une dimension architecturale qui est très très présente. Il y a un souci d'insertion de ces mosquées dans le paysage architectural français, et on trouve parfois des minarets avec une configuration architecturale très très originale pour se fondre justement dans le paysage architectural français. Donc voilà, concernant le nombre de mosquées, 200 à 300 projets en cours, 2500 mosquées ou salles de prière. Concernant les imams et les aumôniers, donc là, enfin, nous, on est tout petits par rapport au nombre de prêtres, etc. Dans les 2500 mosquées, il faut savoir que le fait de devenir imam en islam est relativement souple, entre guillemets, quand il y a un groupe qui se retrouve, c'est celui qui porte le plus de versets du Coran, qui est avancé pour conduire la prière. Donc la notion d'imam pour conduire la prière est quelque chose de relativement souple et simple d'accès. Par contre, le fait de pouvoir assurer le prêche du vendredi, voire des cours de religion, là, effectivement, ça demande une certaine connaissance, une certaine formation. Et dans les 2500 mosquées de France aujourd'hui, les imams sont souvent... Enfin, il faut savoir qu'il y a des imams qui viennent de pays d'origine, entre guillemets, le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Et là, à tout casser, il y en a peut-être 400-500, c'est tout, qui viennent des pays d'origine ou qui sont affiliés à telle ou telle fédération, donc avec un suivi, avec une formation digne de ce nom. Donc par rapport aux 2500 mosquées, ça me laisse 1800 à 2000 imams. On ne connaît pas forcément quel est leur parcours de formation, quelle est l'image ou la vision de l'islam qu'ils portent. Et c'est pour ça que le Conseil français du culte musulman a pris comme priorité cette notion d'examen du parcours, à la fois sur le plan théologique et sur la notion de formation profane, pour savoir quel est le parcours de l'imam, quel discours il porte, en allant jusqu'à la notion d'habilitation ou de recommandation d'un imam. Donc c'est un travail que le CFCM souhaite mener. Concernant les aumôniers, là aussi il y a des chiffres intéressants. Et depuis que la création du CFCM en 2003, en 2005-2006, il y a les aumôniers musulmans qui se sont structurés dans les prisons, dans les hôpitaux et dans les armées. Donc au niveau des aumôniers pénitentiaires dans les prisons, il y a à peu près 190 aumôniers musulmans. Il faut comparer peut-être à 500, 600 aumôniers chrétiens, alors que malheureusement on dit que la population carcérale est souvent, je dirais, ou parfois majoritairement de culture ou de confession musulmane, il y a un gros besoin. Sur les aumôneries hospitalières, ils sont au nombre de 64, et les aumôneries militaires, il y a une cinquantaine à peu près d'aumôniers militaires qui vont jusqu'à accompagner les soldats sur les opérations extérieures, les OPEX comme on dit. Concernant les composantes, les différentes sensibilités de l'islam de France, il faut savoir qu'il y a une vraie diversité. Bon, certains disent division, moi je reste politiquement correct. Il y a une grande diversité qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir intégrer, qu'il faut savoir même, je dirais, faire vivre pour pouvoir avoir des points de vue et des contributions différentes. En tout cas, les grandes tendances qui se dessinent, vous avez la grande mosquée de Paris, qui historiquement représente peut-être les musulmans d'origine algérienne, donc elle fédère un certain nombre de mosquées à travers la France, on parle de 250 à 300, là aussi ce sont des statistiques approximatives. Il y a le Rassemblement des musulmans de France que je préside, les mauvaises langues disent que c'est le Rassemblement des Marocains de France, parce qu'en fait ce sont les musulmans d'origine marocaine, il y a 500 mosquées à peu près qui sont affiliées au RMF. Et puis il y a les autres familles, les musulmans d'origine turque, qui est une communauté ou une composante de l'islam de France qui est en train de se développer d'une manière très 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 forte. Et puis il y a l'islam d'origine subsaharienne, africaine subsaharienne. Et donc là aussi, vous avez là les différentes sensibilités de l'islam de France. Concernant les différentes institutions, et je terminerai par là parce que je vois qu'on me fait des signes. Donc en 2003, il y a eu une institutionnalisation de l'islam de France à travers la création du Conseil français du culte musulman. Donc c'est un processus qui a commencé en 1986, depuis Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, qui a eu une accélération en 1999 avec Jean-Pierre Chevènement en tant que ministre de l'Intérieur, et en 2003 avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu la mise en place de cette instance qui est censée représenter le culte musulman auprès des pouvoirs publics. Mais effectivement, enfin, pour faire rapide, mais on pourra revenir par la suite, il y a un certain déficit d'image aujourd'hui du CFCM, et c'est le président du CFCM qui le dit, un déficit du CFCM, l'image du CFCM auprès de la communauté. Parce que le fait qu'on travaille avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de dossiers, on est considéré parfois, surtout par des jeunes, comme étant les harkis de la République, entre guillemets, et pour eux, le CFCM, c'est le Conseil français du contrôle des musulmans. Donc il nous voit parfois comme le représentant des pouvoirs publics auprès des musulmans et non l'inverse. Mais bon, on est en train de se soigner là-dessus, rassurez-vous. Et je m'arrête là puisque je pense que le temps a été écouté.
Oui, vous avez anticipé sur le deuxième temps, donc c'est très bien.
Merci beaucoup, monsieur Dévêche. Monsieur Ravamberos, je vous laisse la parole pour la même présentation un peu statistique, l'état des lieux. Merci.
Au niveau des statistiques, bonsoir Sergio, vous êtes très bien organisé. Nous on est un peu plus éparpillé malgré le petit nombre. On est bien organisé dans la mesure où on a une école rabbinique qui forme nos rabbins. Et ces rabbins ont des synagogues qui sont souvent liées à des villes. On a le rabbin de Lyon, le rabbin de Toulouse, de Toulon, de Reims, de Dijon. Et ils sont au nombre de 150. On n'a pas forcément fait remonter des mariages, des circoncisions. Ce qu'on sait, c'est la fréquentation des synagogues. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le judaïsme parisien, la région parisienne, représente un juif sur deux. On est entre 600 et 700 000, très peu. Et cette communauté, en réalité, est composée de traditionnalistes, qu'on appelle souvent les juifs représentés par le consistoire, et il y a les orthodoxes, et enfin un judaïsme qui s'est développé ces dernières années, c'est le conservatisme, qui était vraiment très faible en France, et qui a pris de plus en plus, on va dire, amplifié, c'est un mouvement qui s'amplifie beaucoup. Il est bien plus fort en Amérique, bien plus fort en Angleterre, et où depuis quelques temps, la France connaît aussi donc des femmes rabbins, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors, par rapport à l'enseignement de la formation de nos rabbins, on avait un statut un peu particulier, les juifs, puisqu'on n'avait pas de statut. Et donc on n'existait pas. Donc il a fallu qu'un bonhomme, comme Napoléon, ait redonné un statut aux Juifs. Et quand il a redonné ce statut aux Juifs, il a en même temps décidé d'être un peu comme Dieu, de donner les 10 commandements à sa façon. Et donc il a donné les 10 commandements du consistoire. Et si vous voulez, ces 10 commandements, qui au départ a pas été forcément bien pris, parce que c'était un manque de liberté quelque part des religions, mais au bout du compte, on s'est rendu compte que cet homme avait une vision. Et donc, les trois premiers commandements importants à connaître, c'est être français, pour être rabbin, c'est être français, parler français, et se soumettre aux lois du pays. Ça veut dire que si je marie dans ma synagogue quelqu'un qui ne s'est pas marié civilement, je vais en prison, c'est du pénal. Si je divorce quelqu'un qui n'a pas divorcé civilement, c'est du pénal. Donc, ces lois ont permis à la fois à la communauté de s'insérer et forcément d'être un petit peu aux avant-gardes de ce que les gens pouvaient faire. C'est vrai que naturellement, quand quelqu'un vient pour faire un mariage religieux, on lui dit, mais civilement, est-ce que vous êtes marié? Il vous dit, mais attendez, oui, mais c'est pas encore fait. Et là, vous dites, non, c'est pas possible, il faut aller vous marier civilement. Donc, on est obligé parfois d'aider les gens à passer ce cap, parce qu'on pense que c'est important que le mariage civil donne une attache et va grandir encore plus l'alliance religieuse, puisque quelque part, le divorce religieux va se faire devant des rabbins, alors que le divorce civil va se faire devant des juges, où il va y avoir une conciliation. On a aussi une cour de conciliation, mais disons que ce sont des tracas beaucoup plus forts qui empêchent les couples de pouvoir divorcer, donc c'est une très bonne chose. La communauté, quand c'est nécessaire, il faut le faire, hein, j'ai pas dit, hein, mais disons que souvent on se rencontre aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler, je ne sais pas si c'est avant le débat, mais souvent on se rend compte qu'on assiste à beaucoup de remariages de personnes qui ont divorcé. C'est ce qui nous amène à freiner un petit peu le divorce aujourd'hui. parce qu'on n'a jamais autant remarié des gens divorcés. Donc voilà, donc c'est ce qui nous pose quand même un problème, et en se disant, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne ? La communauté juive se partage, on vous a dit qu'un juif sur deux est dans la région parisienne. La grosse concentration, on parlait du Val-d'Oise tout à l'heure, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 000 juifs dans le Val-d'Oise. 30 000 juifs, c'est le nombre de juifs qu'on a en Hollande. Voilà, donc c'est quand même des chiffres qui sont importants. On est la plus grosse communauté d'Europe. Et donc
50% d'Europe, c'est ça, hein? 50% des Juifs d'Europe sont en France.
Ouais,
c'est ça.
Ouais. Grosso modo, 50% des Juifs de France sont bons. La communauté, c'est 20% de gens pratiquants, à peu près pratiquants, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir prier, qui vont manger cachère, qui vont et suivre une éducation, aller à des cours de théologie, etc. 80% des gens, le reste, se séparent en deux parties. Vous avez des gens qui vont traditionnellement avoir un rituel, alors il peut être culinaire, vestimentaire, en se souvenant de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère qui faisait tel plat, etc. Et il y a un point quand même fort, un petit peu comme les musulmans, avec le ramadan, nous on a eu un petit pour, donc le jour du grand pardon, rien à voir avec le film. Et donc ce jour du grand pardon est un jour qui est plus ou moins plus respecté, où on atteint à la fin des on est obligé, par exemple, dans des petites villes, on est parfois obligé de louer des salles pour pouvoir accueillir tous ces juifs dont on ne sait même pas d'où ils viennent, et donc ils viennent de nulle part, et on les voit qu'un seul jour. Et d'ailleurs c'est très marrant, parce qu'après Kippour, souvent on se promène et les gens vous disent bonjour, et on dit oui, bonjour, et ah oui, je vous ai vu, Yom Kippour, hein. Vous ne m'avez pas vu parce que je suis arrivé le dernier et je suis reparti le premier, mais je vous ai vu officier. Et donc voilà, c'est des gens, on ne sait pas, et voilà, donc il y a une certaine, et ça c'est à noter, je pense, il reste quand même dans la communauté juive une certaine discrétion de, alors vous avez des gens qui sont des inhibés, bon, et les orthodoxes qui n'ont pas peur de sortir avec leur kippa, etc. Et vous avez des gens qui ont encore, qui vivent sous l'après-guerre, et le traumatisme de l'après-guerre, qui va se traduire parfois dans des hôpitaux où des gens qui par exemple mangent cachère et qui ne vont pas manger à l'hôpital parce qu'ils ont honte de dire qu'ils sont juifs. Ils n'ont pas forcément des non-juifs. Et c'est vrai que souvent on dit au personnel hospitalier, vous avez des gens qui ont des noms qui sont vraiment pas du tout juifs. Ils ont peut-être un père non-juif, donc ils ont pris le patronyme non-juif et la mère juive, et donc du coup, puisque le judaïsme passe par la mère, donc du coup, ça fausse un petit peu on va dire la problématique, et du coup, voilà, on a aussi un grand nombre de juifs qui vivent cachés, et pour être aussi aumônier militaire, je suis parfois confronté à devoir rencontrer des gens qui me le demandent à l'extérieur des bases militaires, parce que au sein du régiment ils préfèrent pas, etc.
Voilà. Merci Monsieur Ramon-Berros. Donc un juif sur deux en Europe, en France, un juif de France sur deux à Paris, c'est ça, et à peu près 80% qui pratiquent très régulièrement, 20% plus dilettante. C'est la merde. 20%. Je m'étonnais un peu aussi. Merci de me corriger. Donc on va passer, on va passer à la deuxième partie des interventions. Je vais redonner la parole à Mgr Beau, qui évoquait donc cette question de la laïcité. Et je tiens en passant à saluer Pauline Mettet, qui nous fait plaisir de venir pour représenter l'Observatoire de la laïcité, partenaire fidèle de l'IHEMR. Merci Pauline d'être là ce soir. Monseigneur, alors on passe maintenant sur la partie plus concernant donc la prospective, les dynamiques en cours, les défis et les évolutions que vous voyez venir ou que vous souhaitez vous-même d'ailleurs orchestrer. Merci.
Alors je pense qu'il y a trois grands défis pour. Mais je ne crois pas que le premier défi que je vais nommer est spécifique à la religion catholique. Je crois que c'est spécifique à chaque citoyen, j'allais dire dans le monde, mais en tout cas en France. C'est la chance que nous vivons de la mondialisation. Et c'est vraiment, j'emploie le mot de chance et j'emploie le mot de mondialisation, parce que pour moi, la chance que cela représente comme défi pour les catholiques, c'est le défi de la fraternité. Nous disons toujours, et c'est pour nous, ça fait partie de la révélation biblique et de la révélation en Jésus-Christ, que le Christ nous désigne le visage du Père, et que, étant donné que nous sommes tous appelés à être fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à être frères et sœurs et à nous reconnaître frères et sœurs les uns des autres. Et donc, le défi, c'est bien comment la foi, aujourd'hui, en se faisant culture, va travailler à cette fraternité universelle. Et pour construire la fraternité universelle, il faut être capable de construire la fraternité à l'intérieur de nos communautés, car c'est nos communautés fraternelles et ouvertes qui nous donneront et qui donneront à chaque membre de pouvoir vivre cette fraternité universelle. Donc ça, c'est pour moi le premier grand défi devant lequel nous sommes, et c'est la grande chance, en termes grecs, je dirais, c'est le kairos que nous sommes en train de vivre. Et c'est un vrai kairos, et c'est une grande chance pour l'avenir, si nous sommes capables de relever ce défi. Le deuxième élément, toujours dans cette fraternité universelle, c'est la rencontre des différentes religions. Lorsque j'étais jeune, je suis un peu le dernier, quand on est mon grand âge, d'être de ceux qui ont grandi dans une société chrétienne lorsqu'ils étaient enfants, et où les lois, les règles de la société se confondaient avec une morale globalement morale de l'Église catholique. Il n'y avait pas trop de distinction, en tout cas dans l'expérience que j'avais, mais là encore, c'est parce que j'ai presque 60 ans, et donc ça nous fait une projection. Aujourd'hui, nous vivons cette différence entre les lois de la société, ce qui est l'esprit de l'Évangile, et dans d'autres religions, ce qu'ils peuvent porter, qui peuvent aussi entrer en dialogue. Donc nous sommes devant des dialogues de conceptions différentes qui ne sont pas simplement des différences de conception morale, mais qui sont des différences de conception anthropologique. Je crois que nous n'avons pas tous la même anthropologie à l'intérieur de notre société. Alors qu'avant, nous pouvions avoir des comportements différents, mais réunis dans une anthropologie à peu près commune, aujourd'hui, nous n'avons pas la même anthropologie à l'intérieur de ce que nous vivons dans la même société. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, au-delà de ces différences d'anthropologie, il y a la question comment une société et comment les responsables politiques d'une société vont aider une société à retrouver le point de convergence anthropologique qui va permettre l'unité d'une société. C'est-à-dire comment nos politiques vont pas simplement chercher à être élus, mais chercher le bien de la société, ou comme ils disent, l'intérêt général, qui est justement d'amener une société à porter une anthropologie commune, qui n'est pas une anthropologie du semblable, mais une anthropologie en dialogue avec des anthropologies différentes, mais qui ont en commun des règles à respecter et à vivre. Donc ça, pour moi, et vous voyez, je suis parti du dialogue entre les religions pour arriver à ce point de convergence de l'ensemble de société qui va arriver à dialoguer et à porter ensemble des différences sans inhiber les différences. Si nous inhibons les différences, si nous inhibons ce qui fait des anthropologies différentes, nous créerons des communautarismes et nous serons des sources de conflits. D'où l'importance pour tous les responsables religieux, si je peux me permettre de dire ça, mais à mon titre personnel de responsable religieux catholique, de toujours maintenir dans nos communautés, en tout cas dans la communauté dont j'ai la charge, le souci du dialogue. D'où l'importance, par exemple, dans le Collège des Bernardins, que ce soit un lieu qui soit comme un lieu visible et identifié du dialogue. Et comment on peut arriver à ce dialogue sans crainte, c'est parce que nous n'avons pas peur de l'autre. Nous n'avons pas peur de ceux qui pensent, qui croient et qui ont des conceptions différentes. Au contraire, je crois que nos conceptions différentes sont des sources de fraternité. Mais cette absence de peur fait que nous n'allons pas dire « Ah ben alors, ils vont se convertir ou on va se retrouver balayé, on ne va plus exister ». Non, je crois qu'il faut être sérieux. La dignité de l'homme, elle passe par la liberté de l'homme. Et qu'il n'y a pas de dignité de la personne humaine s'il n'y a pas le souci de la liberté de l'homme. Cette liberté, c'est aussi évidemment la liberté religieuse. Donc la liberté de changer de religion, de se convertir d'une religion à une autre. C'est la base même de ce qu'une république laïque est la gardienne, j'allais dire, dans une société qui, elle, n'est pas laïque, mais porte un certain nombre de convictions, de religions, etc. Alors, cette absence de peur fait que moi, je crois au Christ, hein. Je crois en son amour, je crois en son pardon, je crois en sa vie et sa résurrection. Et pour moi, c'est ma foi qui va fonder mon respect des autres religions, le droit à changer de religion, mais d'abord le fait que je comprends dans les autres religions, sans chercher du tout à les convertir, mais je reçois des autres religions quelque chose qui va purifier mon regard dans mon rapport à Dieu pour être plus vrai dans ma foi aujourd'hui.
Parfait. Merci, Monseigneur Bou. Pasteur Canoli, Monsieur le Président, à vous de prendre la main sur ce sujet.
En introduction, j'aimerais dire combien le fait ultra-minoritaire du protestantisme dans ce pays, donc 2 millions de protestants, ce fait ultra-minoritaire n'empêche pas, et ça je le crois vraiment, que la voie protestante nourrisse, soit une ressource pour la société. C'est-à-dire que dans le cadre d'une république comme la nôtre, et même avant que le pays soit une république, la réalité ultra-minoritaire d'une confession comme la confession protestante n'a pas empêché ses membres d'être des contributeurs, d'être des opérateurs, des intervenants, des citoyens, apportant leur contribution au vivre ensemble. Et ça me permet de décliner trois thématiques que vous connaissez par cœur et qui sont entremêlées avec les problématiques protestantes, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. J'ai cherché, hein, j'aurais pu trouver autre chose, mais j'ai trouvé que entremêler l'affirmation de la liberté de conscience, qui est au principe même de la réforme luthérienne, la liberté de conscience de laquelle dépend la liberté de religion. Affirmer la liberté de conscience, c'est donner à l'humain, quel qu'il soit, cette capacité de se situer devant n'importe quel autre différent. La liberté de conscience comme possibilité d'être adulte vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre et en société, et aussi donc de respecter l'autre dans la liberté qu'on lui reconnaît. Ça, c'est au principe même de la réforme, et aujourd'hui, cet enjeu de la liberté de conscience est contrebattu par un certain nombre de religions ou par un certain nombre de pouvoirs politiques. La Corée du Nord, par exemple, est un exemple. La Corée du Nord, c'est un pays où la liberté de conscience est bafouée. On ne parle pas de la Corée du Nord ici, hein, c'est un sujet exotique. Enfin bon, mais il y a beaucoup de Coréens dans ce pays, ici en France, il y a beaucoup de Coréens protestants. Vous savez que c'est la religion, après le bouddhisme, c'est la religion la principale. Alors les Coréens du Sud sont fascinés, sont terrorisés par ce qui se passe en Corée du Nord sur cette question de la liberté de conscience. Donc la liberté de conscience est au principe de cette affirmation que devant Dieu, nous pouvons construire une vie juste, libre, en fraternité avec les autres. L'égalité ensuite. Pourquoi l'égalité est-elle entremêlée aux affirmations religieuses ? C'est précisément parce qu'en protestantisme, où il n'y a pas de
deux classes de croyants, le clerc et le laïc, le religieux et le fidèle de l'Église, mais où chacun est à équidistance du salut, où chacun est à équidistance du Christ. Vous savez que les premières architectures des temples protestants étaient circulaires, de sorte que chacun était à équidistance de la parole de Dieu. L'égalité permet de dire précisément que chacun a sa place, non seulement comme membre de la communauté, mais aussi comme membre de la société, et ainsi l'égalité homme-femme, par exemple, ou l'égalité de droit, de dignité de chacun, s'exprime et se fonde théologiquement. Donc l'égalité est aussi quelque chose qui est porté dans les textes de l'Évangile et que le protestantisme a toujours voulu mettre en valeur, avec évidemment la contestation de tout ce qui empêche l'égalité. Alors c'est toute la thématique de l'esclavage, du rapport homme-femme, du travail des enfants, etc. Enfin, toutes ces thématiques sociales, sociétales ou politiques qui engagent les protestants dans des luttes diverses et variées. L'égalité de droit, l'égalité de droit entre les uns et les autres. Et puis la fraternité, et là je rejoins ce qu'a dit Mgr Bou, la fraternité comme principe de vie où, précisément, nous sommes frères en dehors du cercle familial. C'est-à-dire la fraternité n'est pas une affaire de famille. Et ça s'explique assez bien dans la mesure où, précisément, nous ne choisissons pas nos frères et nos sœurs. Dans une famille, ils nous sont imposés, gracieusement. Enfin, on les aime beaucoup, les frères et les sœurs, et surtout les grands frères. Mais la fraternité, précisément, permet d'accepter l'autre dans un projet de vivre ensemble où il n'est plus question de s'assassiner comme Caïn et Abel, mais où il est question de construire un avenir commun. Et là encore, les lectures bibliques nous montrent comment. Alors là, je parle aussi en résonance avec ce que pourra dire le rabbin tout à l'heure, mais la thématique biblique de la fraternité traverse tous les textes de A jusqu'à Z, et au fond, être croyant ou être au bénéfice de ce message qui nous vient de la Bible hébraïque ou de l'Évangile, c'est s'accepter comme frère et sœur avec quiconque, puisque précisément nous n'avons pas à les choisir. Et d'où l'ouverture possible de l'Église ou des Églises, dans leur diversité, dans leur multitude, à tous ceux qui veulent entrer dans cette démarche. C'est le principe de l'universalité du christianisme, que l'apôtre Paul a évidemment, lui qui était justement très singulier dans son judaïsme, a pu faire passer dans la civilisation occidentale. Donc voilà, liberté de conscience, égalité des êtres humains entre eux, avec toutes les conséquences, et puis fraternité pour le projet de la construction d'une société où le modèle n'est plus Caïn et Abel, mais le frère et la sœur en Christ, vis-à-vis duquel nous sommes tous à équidistance.
Merci, Monsieur le Président. Cette ouverture aux autres religions, aux autres églises, question peut-être très rapide pour tous les deux, puisque vous l'avez évoqué, ça vaut aussi pour ceux qui n'ont pas de conviction religieuse, j'imagine.
C'est intéressant la remarque, parce qu'à tous les coups, elle arrive. Et nous qui n'avons pas de religion, est-ce qu'on a le droit d'exister, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est une évidence. C'est, voilà.
Merci de l'avoir en vous. Monsieur Bibesh, donc pour cette partie dynamique, évolution et vos chantiers en perspective. Merci.
Donc, en tenu de temps imparti, je vais essayer de cibler un peu mon propos sur trois ou quatre défis majeurs que doivent relever les musulmans de manière générale, et les musulmans de France en particulier. Le premier défi, c'est seul le mot a été prononcé, c'est le défi d'être porteur d'un esprit de renouveau et d'ouverture que les musulmans doivent mettre en place à travers leur engagement, à travers leur activité, à travers leur action dans la société au jour le jour. Et cette ouverture et ce renouveau, c'est la négation même du communautarisme, c'est la négation même du repli sur soi, Donc je pense que les musulmans doivent s'intégrer d'une manière positive dans la société, en dépassant peut-être la mentalité du réfugié ou la mentalité de l'étranger, et en abandonnant définitivement le mythe du retour au pays d'origine. Parce que peut-être que ce mythe existait dans la première génération, aujourd'hui il y a une deuxième, troisième, voire même quatrième génération qui se considère français à part entière et non français entièrement à part, et donc qui veut s'intégrer vraiment, qui doit s'intégrer dans la société française et qui se considère totalement française. Et j'étais étonné une fois, enfin c'est une anecdote que je raconte, qu'une fois on était dans le cadre de l'organisation de l'abattage rituel pour les trois jours de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir qui est la fête du sacrifice de moutons, et comme il y avait une pénurie d'abattoirs, notamment en Ile-de-France, c'était dans 78, il y a le préfet avec un certain nombre de responsables de mosquées qui étaient devant lui, qui nous a dit, mais s'il n'y a pas possibilité de faire un abattage ici, vous n'avez qu'à envoyer la somme correspondante au prix du mouton au pays d'origine. Et il y avait des responsables qui se sont tournés vers moi, mais ils m'ont dit, mais notre pays d'origine, c'est la France, on va envoyer ça au pays. Donc cette notion que l'islam, c'est la religion de l'étranger, je pense qu'il faut carrément l'abandonner et en faire le deuil, entre guillemets. Bon, j'ai bien aimé une image que François Claveroli cite parfois en disant bah, « L'islam, il faut lui faire une place, c'est le dernier arrivé, c'est un peu comme la tante qui arrive pendant le week-end et il faut lui faire de la place. » Sauf que là, c'est peut-être plutôt la belle-mère que la tante.
Et qui reste longtemps.
Et que c'est pas le week-end, c'est pour longtemps, quoi. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas il va falloir s'y faire. Le deuxième défi, c'est la contribution d'une manière là aussi active et positive dans les différents domaines, que ce soit le domaine politique, économique ou social. Bien sûr, quand on parle d'engagement politique, il y a une vraie fausse bonne idée qui est d'aller créer un parti des musulmans de France, et vous avez quand même quelques tentatives, on l'a vu dans les dernières régionales avec. Il y a des musulmans qui disent, puisqu'il y a un parti démocrate chrétien, bah naturellement, il devrait y avoir un parti démocrate musulman. Mais c'est vraiment renforcer le communautarisme. Donc nous, on pousse vraiment les musulmans à s'engager dans leur citoyenneté, à être vraiment acteurs de la vie politique, mais en s'intégrant dans les partis traditionnels, bien sûr en évitant un peu les extrêmes, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins qu'ils s'engagent dans les partis traditionnels pour contribuer au débat démocratique. Il y a un troisième défi qui est important et que le CF5 prend au sérieux, c'est d'innover et de mettre en place de nouvelles formes de religiosité qui tient compte du contexte dans lequel on vit ici en France. Bien sûr, quand on parle d'islam de France, c'est quoi les contours ou la définition de l'islam de France? C'est un islam, bien sûr, qui doit être authentique, qui doit être respectueux des préceptes immuables de la religion musulmane, mais qui doit tenir compte du contexte dans lequel on vit. Et le contexte, Dieu sait qu'il est complexe. Je crois que c'était le général de Gaulle qui disait « Comment voulez-vous gouverner un pays qui a plus de 460 variétés de fromage ?» Donc la société française, elle est complexe, et je pense qu'il faut que les musulmans intègrent cette complexité, cette spécificité. Et le contre-exemple des choses à ne pas faire, c'est cette histoire de voile intégrale. Donc concernant les tenues vestimentaires, il faut que les musulmans essaient de passer entre guillemets inaperçus. Bien sûr, ils n'ont pas à gommer leur identité, mais on a eu du mal à comprendre pourquoi il y avait des jeunes filles ou des jeunes femmes, ou des femmes tout court qui s'attachaient à une pratique qui peut parfois choquer même dans un pays musulman classique. Les femmes qui portent le voile intégral choquent même au Maroc, par exemple. Enfin, on les appelle d'ailleurs les ninjas par rapport à cette tenue noire complète. Et donc, par rapport à un contexte français ou européen, il faut que les musulmans intègrent cette notion-là. Et c'est un discours et une pédagogie qu'il faut porter auprès des jeunes, notamment. Et donc ça, c'est pour dessiner les contours de cet islam de France qui soit respectueux du contexte français. Maintenant, on est totalement convaincu qu'il faut mettre en place un conseil théologique qui regrouperait des savants et des oulémas musulmans de France et qui fasse ce travail de réflexion en partant du texte sacré mais en tenant compte du contexte français dans lequel on se trouve. Et là-dessus, enfin, on a commencé un peu avec un certain nombre d'acteurs et de composants de l'islam de France dont j'ai parlé tout à l'heure, pour mettre en place ce conseil religieux. Le quatrième et dernier défi, et là je rejoins mes prédécesseurs dans leur discussion, c'est de s'ouvrir davantage vers les autres religions, vers les autres croyants, et aussi vers les non-croyants, pour anticiper la question qui va être posée. Merci. Je pense que là, l'objectif, c'est de renforcer les conditions d'un meilleur vivre ensemble, avec toutes les composantes de la société française, de toute confession et de toute conviction. Et l'objectif, là aussi, n'est pas de créer un front des religions qui serait seul contre tous et contre la société, mais créer de nouveaux espaces d'échange et de convivialité qui permettent justement de favoriser cette meilleure connaissance et donc cette meilleure reconnaissance. Et là-dessus, il y a une notion vraiment fondamentale de la religion musulmane que les musulmans doivent intégrer. Et je terminerai par là en citant un verset dans le Coran qui est très révélateur là-dessus. C'est dans la table, la sourate numéro 5 de la table servie, verset 48, dans laquelle Dieu dit « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. On voit bien qu'à travers ce verset, c'est une institutionnalisation et une reconnaissance de la diversité religieuse. Et un musulman n'a pas à aller vouloir convertir l'autre, à vouloir le remettre au même format que sa vision des choses. Et je pense que ce respect de la diversité, ce respect de l'altérité, ce respect de la conviction et de la liberté de conscience de l'autre est quelque chose de fondamental. Et donc dans ce même verset, Dieu dit un peu plus loin, « Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. » Donc s'il y a de la compétition à faire, c'est entre nous pour rivaliser dans les bonnes œuvres et pour construire ce meilleur vivre ensemble.
Merci beaucoup, Monsieur Linesh. Donc, unité dans la diversité, si je comprends bien, un petit peu comme la devise de l'Europe. Merci. Monsieur Ramos, vous avez le privilège de clôturer ce volet de la conférence.
C'est gentil. Effectivement, dans le judaïsme, il n'y a pas de prosélytisme. Donc, l'ouverture a été innée dans la mesure où le prophète Jérémie demande aux Juifs de s'insérer, de contribuer à l'essor du pays, de pouvoir aider le pays dans lequel on évolue à grandir par nos enseignements, par notre spécificité, tout en s'insérant dans la vie, bien entendu, la vie politique non, mais pas forcément, je veux dire, mais dans la vie surtout de la cité et en vivant avec les autres, parce que si on ne vivait qu'entre nous, la vie serait monotone. Et donc, toute la grandeur d'un homme, c'est de sa capacité de rester ce qu'il est, sans jamais renoncer à ce qu'il est, tout en acceptant ce que sont les autres. Et la grandeur, justement, d'un homme est d'être capable de vivre avec l'autre. Il m'arrive parfois de manger différemment, mais de parler de même thème. Et je dis souvent, vous voyez, nos différences ne sont pas forcément un mur. C'est-à-dire qu'on peut ne pas manger la même chose. J'ai mangé du poisson, vous avez mangé de la viande parce qu'elle n'était pas cachère, mais on va parler de la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de notre société, c'est que on fonctionne par fédération, par association. Aujourd'hui, on a les femmes battues, on a les femmes isolées, on a les femmes divorcées, on a les handicapés, les sourds, les aveugles, ceux qui sont en chaise roulante. Et comme si personne n'était capable de parler avec l'autre. Comme si, parce que j'étais différent, dans mon handicap, dans ma situation sociale, eh bien, je ne peux pas être... Et ça, c'est terrible. Et ce qui est extraordinaire, en fin de compte, dans toutes les religions, c'est que dans une synagogue, on retrouve, eh bien, toutes ces catégories, on retrouve des handicapés, des pauvres, des riches, des malades, des SDF, et la capacité de pouvoir vivre tous ensemble, à l'unisson, autour de ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'amitié et l'entraide, eh bien, c'est ça pour nous le socle. Or, notre problématique, l'insertion du peuple juif, l'intégration du peuple juif, a fait ses preuves, je le pense. Tous les samedis, nous prions pour la République française, pour le peuple français. Et nous avons rajouté ces dernières années, avec tous les engagements de nos militaires, on a rajouté une phrase pour bénir nos soldats, pour dire toute notre fierté du combat qu'ils mènent, montre bien à la fois l'amour qu'on a pour notre patrie. Et c'est vrai que souvent les gens disent « oui, mais alors vous, par rapport à Israël et la France, c'est quoi mon cœur balance et c'est quoi votre histoire ?» Et je disais que c'est difficile de choisir entre son père et sa mère. Et que quelque part, on a autant d'amour pour sa mère que pour son père, et que l'amour peut-être de la mère et du père n'est pas la même, mais lorsque ils ont besoin de vous, il faut savoir répondre présent. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que on doit se battre et on doit mourir pour la patrie dans laquelle nous sommes, nous vivons. Elle nous a donné une partie de ma culture. Elle est française. J'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. J'ai un esprit français, j'arrive pas à manger israélien et j'arrive pas à manger américain. Je mange français, même si de temps en temps je bois du Coca-Cola. Mais enfin, c'est assez important. Et donc, à partir de là, le gros problème qu'on rencontre avec nos jeunes qui parfois ne comprennent pas qu'un rabbin parle et bénit le peuple français et la République française et que. La radicalisation de la laïcité aujourd'hui fait que on ne peut pas suivre un cursus universitaire normal en France. Et donc, à un moment, on dit, mais nous, on est insérés, mais est-ce qu'on veut de nous encore? Et ça, c'est la grosse problématique. Alors, on se bat beaucoup, on a beaucoup de débats avec ce Bianco et sur, justement, cette fameuse laïcité. La laïcité, elle est nécessaire. C'est une des inventions les plus géniales qu'on ait pu avoir, mais la laïcité doit s'inscrire dans l'acceptation des autres. Il ne faut jamais oublier qu'à travers des gens, à travers une culture, à travers une religion, il y a des hommes et il y a des souffrances. Quand vous avez quelqu'un qui ne peut pas passer un examen parce que c'est un samedi ou parce que c'est un jour de fête et qu'il va perdre son année, littéralement perdre une année, il y a un moment où on se dit, mais on vit où? Est-ce qu'on est dans l'acceptation? Est-ce qu'on est dans le fait de ne plus voir des réalités? Et je pense qu'on s'est déshumanisé. Aujourd'hui, la société s'est déshumanisée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir cette capacité à prendre en compte la douleur et la peine de quelqu'un qui, quand même, va jusqu'au bout de ses convictions, puisqu'il perd une année pour sa foi. Et donc, si on n'accepte pas, bien, la crainte, c'est d'avoir un repli. Et la pire des choses qui puisse arriver, justement, c'est d'avoir un repli identitaire, d'être montré du doigt, de sentir que y a des choses qui ne sont pas simples à faire lorsqu'on est de telle ou telle religion. Et je pense que là, il y a un vrai débat qui doit s'installer. On doit être capable aujourd'hui de vivre avec nos différences. C'est enrichissant pour tout le monde, d'ailleurs, parce que ça amène tellement de bonheur. Et de faire une place aux autres, vous savez, c'est s'honorer soi-même. Il y a les maximes de nos pères nous disent, c'est qui l'homme honoré? Souvent, c'est quelque chose que les gens cherchent. C'est quoi être honoré? Est-ce que c'est avoir beaucoup de diplômes? Est-ce que c'est avoir une médaille? Est-ce que c'est avoir fait preuve de... Et en fin de compte, les maximes de nos pères nous disent une phrase très simple. Ils disent, l'homme honoré, c'est celui qui sait faire une place aux autres. Parce que lorsqu'on a fait une place aux autres, forcément, eh bien, on retrouve sa place. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que sous prétexte d'une certaine laïcité, parce qu'elle est nécessaire la laïcité, mais d'une certaine forme de laïcité, eh bien on ne puisse pas aller de l'avant. J'ai remis un rapport à l'époque aux différents ministres de l'Intérieur en donnant une idée simple sur le vivre ensemble. On parle du vivre ensemble, mais quels moyens se donne-t-on aujourd'hui pour vivre ensemble? À part le dire, c'est tout. Et puis, il y a un problème de vivre ensemble. C'est quoi vivre ensemble? On a toujours vécu ensemble, je ne comprends pas. C'est un nouveau concept. C'est comme si aujourd'hui, il y avait quelque chose qui s'était passé sans qu'on s'en rende compte. Il y a une guerre qui a été menée, une guerre invisible. Je sais qu'il y a à l'époque de Star Wars, mais quand même, il y a quand même quelque chose de terrible. C'est quoi le vivre ensemble? On a toujours vécu ensemble, et bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et je pense que on devrait... aujourd'hui mener cette réflexion. Et donc ce que j'avais soumis aux différents ministères, c'était de dire que l'image, par exemple, voilà, on est quatre hommes de religion aujourd'hui, aller dans une école, parce que aujourd'hui la force,
c'est plus l'écriture, c'est l'image. Vous voyez bien, nos enfants, ils vont lire des bouquins. Là où il y a plus d'images, ils vont prendre plus de temps pour lire ce qu'ils ne vont pas lire, mais ce qu'ils vont voir. Donc l'image, elle est forte, les médias l'ont très bien compris, et ils l'utilisent très fortement. Je pense que nous devons, nous aussi, religion, utiliser l'image positive. Et donc je pense que aller dans des classes comme le CP, le CE1, sans avoir un discours prosélyte, parce que ce n'est pas le but et on ne le recherche même pas, mais de dire et de donner un message de paix et de fraternité, tout simplement par l'image, en disant nous sommes rabbins, imams et prêtres pour la paix, et nous sommes différents, et nous nous acceptons, et nous nous aimons. Montrer cette image aux enfants, d'accord ? Cette image qu'aujourd'hui la télé ne peut plus montrer, eh bien il faut qu'on puisse aller, et aujourd'hui on a ce problème, au nom de la laïcité, eh ben, on ne peut pas le faire. Et c'est dommage parce qu'on a des défis qui sont grands et je pense que la société arrivera à devenir beaucoup plus forte lorsqu'elle aura compris que l'échange, eh bien, c'est la vie et que le non-échange, c'est la mort.
Merci, monsieur Rabin. Je crois que le message a été entendu par l'Observatoire de la laïcité, tout du moins. Mais ça fait partie des échanges. Est-ce que vous souhaitez réagir les uns et les autres sur les propos que vous avez tenus avant qu'on passe la parole aux personnes qui ont des questions de la salle ? Est-ce que vous souhaitez prendre un peu de temps pour réagir pour, est-ce qu'il y a des propos des uns et des autres qui vous feront réagir ou pas ? On passe directement aux questions.
Ouais, c'est bien.
On passe aux questions ? D'accord. Écoutez, un gros merci pour vos interventions. Je retiens deux choses, hein. Acceptation de l'autre, quel qu'il soit, tel qu'il est, avec ses convictions, et le nécessaire besoin de trouver la juste limite dans l'expression du religieux, avec parfois des frottements, comme vous avez pu l'évoquer au final, mais effectivement, certaines expressions du religieux qui ne sont pas tolérables du fait d'un contexte, du fait d'un vivre ensemble, etc. Donc un équilibre à trouver, et effectivement, avec le rapport à la loi qui est là pour y arriver, voilà, dans l'échange et la construction ensemble. Mesdames et messieurs, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, qu'on vous voit bien et qu'on vous passe le micro. Sylvie, pardon. Il y a Sylvie, ensuite monsieur.
Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc c'est bien évidemment la première chose que j'ai commencé lorsque j'ai été nommé grand rabbin du Val d'Oise, ça a été d'aller dans toutes les écoles juives et de faire venir des imams, des prêtres. La dernière en date, c'était l'ordre de Villiers-le-Bel. D'ailleurs, c'était une très belle réussite avec Monseigneur Lalame et l'imam Chalgoumi, où il a été. C'était un nom très fort parce qu'en plus j'ai choisi l'ordre. Parce que l'ORTE, c'est une école qui est confessionnelle, mais qui accepte des enfants de tout horizon. Donc on avait, dans cette école, on avait des enfants qui n'étaient pas juifs. On a invité des proviseurs de différents lycées pour que, justement, leur enlever la peur de ce que ça pouvait être. Alors cette fois-ci, c'est vrai que c'était une vraie conférence, du moins, avec juste expliquer c'est quoi l'islam de France. C'est quoi le judaïsme, etc. C'était vraiment très simple et les enfants ont été vraiment les questions. En fin de compte, on s'est rendu compte du besoin de parler parce qu'aujourd'hui on a deux blocs. La laïcité, on se cache. Il y a l'athéisme d'un côté. Mais l'athéisme, c'est un point d'interrogation. On n'est pas sûr si on est athée. En fin de compte, moi je dis toujours, on saura si on est athée lorsqu'on sera dans un avion. Les deux réacteurs
cesseront de fonctionner, que l'avion va piquer du nez, et là, tu vas, est-ce que tu te retournes vers Dieu ou pas? Donc, souvent, les questions d'athéisme sont souvent des questions, on va dire, philosophiques. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Donc, ça reste un point d'interrogation, et je trouve que c'est très honnête de la part de ceux qui le sont, de ne pas avoir de certitude. Quand je parle avec un athée, il y a quand même une certitude. D'un autre côté, on a des gens qui sont très investis dans la religion et qui ont des certitudes. Forcément, les enfants, eh bien, ils ont d'un côté une interrogation et de l'autre une certitude. Ils vont aller vers la certitude. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des enfants qui vont aller vers, pas forcément des religions, mais des sectes ou des organismes qui ne sont pas reconnus ni par le consistoire, je parle pour ma paroisse, ni par d'autres paroisses. Et ça, ça pose un vrai problème. Donc, je pense que on l'a réalisé, le Grand Bain de France a fait toutes les écoles juives, justement, à Paris, sur Paris, pour justement amener ce débat et pour permettre justement de décrisper un petit peu ce problème en montrant qu'on était capable de faire de bonnes choses sans aucune entrave.
Merci, monsieur Lardin. Monsieur
Lardin de Clermont, pasteur à la retraite. Il y a un mot que, M. Rapin, vous avez utilisé tout à l'heure, qui est celui de la radicalisation laïciste. Mais ce mot de radicalisation est devenu presque commun dans l'actualité récente et est dénoncé par tous les politiques comme le plus grand drame de notre société. Or, quand je regarde chacun des mouvements religieux que vous représentez, entre le jeune qui a 28 ans s'enferme dans une trappe de prière et de silence, ou l'évangélique qui est plus évangélique que tous les évangéliques qui l'ont précédé, ou le salafiste qui prétend remonter à la vraie religion musulmane, j'ai pas d'exemple du côté juif que vous en trouverez facilement. Comment est-ce que par rapport à cette ouverture dont vous avez témoigné tous les quatre, par rapport à la société, vous vivez avec cette radicalisation que je considère comme quelque chose par certains côtés tout à fait positif, enfin tout à fait naturel, et comment est-ce que vous vivez avec cette radicalisation de vos propres mouvements religieux?
Nous, on lutte, si vous voulez. Nous, on a aussi des mouvements orthodoxes qui sont assez hallucinants. Et je pense que notre travail, justement, est de. On a un texte et on doit s'accrocher au texte. Et les débats doivent être souvent théologiques. Et souvent, quand on parle aux jeunes qui se radicalise justement, on a en fin de compte, au bout du compte, des gens qui ont eu envie de faire certaines choses et qui ont pris comme prétexte la religion. En fin de compte, souvent ces gens-là ne sont pas religieux. Et comme j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui commet, on en a eu, hein, on a un juif qui a tué Rabin quand même, et je dis tuer au nom de Dieu, c'est tuer Dieu. Et parce qu'on a, on a fait le pire du pire. Et quand on n'est pas à l'image de ce que Dieu veut que l'on soit, on n'est pas ce qu'il représente. Et donc, du coup, quelle image donne-t-on? Et c'est pour ça que l'image qu'on doit donner aux hommes, il y a une formule talmudique qui dit « tu dois être blanchi de Dieu et des hommes ». C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter d'être bien avec Dieu en bafouant l'homme. Parce que lorsque tu bafoues l'homme, tu bafoues Dieu.
Ça, on le sait, mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? C'est ça la question plus précisément. Comment vous les traitez, quoi?
Ce qu'on fait, c'est aller et en montrant justement à ces jeunes-là que ce qu'ils recherchent, c'est pas la religion. Parce D'accord. que s'ils cherchaient la religion, ils la trouveraient différemment.
D'accord. Monsieur Caveroli.
La question qui est posée, c'est celle du positionnement de la religion dans la culture. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que toutes les religions participent d'une fabrique civilisationnelle. Toutes. Le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam fabrique de la civilisation. Et le radicalisme déconstruit cette civilisation. Et on le voit d'ailleurs de manière très concrète, enfin très, très évidente, avec les destructions des objets, des monuments, etc. Donc là, il y a un premier indice. Que prêchons-nous ? Quel est le contenu de notre catéchèse ? Quel est notre discours, y compris d'ailleurs dans les écoles confessionnelles, et je reviendrai là-dessus. Que prêchons-nous ? Quel est notre catéchèse ? Quel est le discours dans les écoles confessionnelles sur le rapport religion-civilisation ? Est-ce que la religion propose une alternative à la cité, et donc propose finalement une contestation du vivre ensemble fraternel ? Ou bien est-ce que la religion contribue au fait civilisationnel, au fait politique, contribue à la vie de la cité ? C'est pour moi décisif. Et le protestant que je suis se positionne là très clairement, et notamment par rapport à la laïcité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour mettre en question la laïcité, c'est tout le contraire. Et le problème, c'est que nous n'avons pas su aider l'école laïque à remplir sa mission. Il faut absolument se reprendre là-dessus. Les protestants avaient des écoles privées confessionnelles jusqu'au XIXe siècle, jusqu'en 1905, et ont fait le choix de se dessaisir de ces écoles privées confessionnelles parce qu'ils considéraient que ça n'était pas de l'ordre de l'Église, ça n'était pas de la responsabilité des religions d'enseigner les enfants. C'est un débat, là aussi, très très complexe, mais réel, qui a été posé très tôt. Est-ce que l'enseignement des enfants, et donc tout ce que l'on va transmettre à ces enfants, dépend de la famille et de la confession, ou bien dépend de la cité ? Et ce choix est terrible, mais le protestantisme a fait ce choix en disant « ça n'est pas le rôle des églises que d'apprendre les mathématiques, la géographie, l'histoire, et même les religions ». C'est le rôle de l'éducation nationale, et par conséquent, c'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise. Alors, c'est très difficile de défendre l'école laïque aujourd'hui, vous comprenez, parce que tout le monde tombe dessus. Et finalement, avec cette posture assez commode de dire ben, « nous avons des écoles confessionnelles, parce que là, au moins, ça marche ». Ben oui, forcément. Mais enfin, d'abord, ces écoles confessionnelles sont très minoritaires, et même en judaïsme, elles ne concernent pas la majorité des enfants juifs. Et là où elles sont à l'œuvre, elles sont subventionnées, elles sont largement aidées, et donc finalement, elles ne sont pas si privées que ça. Enfin, elles sont très, très aidées, même. Donc là, il y a un vrai débat de société qui nous interroge. Et la question de la radicalisation, les études sont faites maintenant là-dessus depuis une dizaine d'années, la question de la radicalisation est liée précisément à la faillite de la transmission à l'école. Toutes les études qui ont été faites récentes, mais réelles, sur la radicalisation montrent que ce sont des Français, des élèves français, des citoyens français, qui ont raté quelque chose à l'école laïque, qui ont raté, mais vraiment... et qui, civilisationnellement, se trouve exculturé et finalement dans un ressentiment tellement violent que le passage à l'acte peut arriver n'importe quand. Et c'est d'ailleurs l'étonnement, à chaque fois, très énervant, très agaçant, vous savez, du voisin ou même de l'oncle ou du père qui dit « mais il était gentil, il était bien, il était normal, et puis voilà, il a dérapé ». Et oui. Donc là, il y a un vrai débat, je trouve... qu'il faut reprendre après nouveau dans la société française, c'est est-ce que oui ou non nous allons nous ressaisir par rapport à l'éducation et à l'école. Mais vous voyez, ce débat ici au Bernardin, c'est compliqué parce qu'on est dans un lieu très marqué là. Et la France a une longue tradition d'école confessionnelle qui évidemment a toute sa légitimité, mais c'est un débat complexe. J'étais un peu long, pardonnez-moi, mais c'est un sujet qui pour les protestants, en tout cas, résonne très très fort.
Qui vous tient à cœur. Je sais que M. Bibesh et Mgr Beau reviendront sur ce point, mais on va peut-être prendre d'autres questions dans la salle pour alimenter le débat. Peut-être d'autres sujets que les personnes présentes souhaitent aborder, donc n'hésitez pas, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entreprise Allez-y, madame. Oui.
C'est juste... quelque chose qui m'a un peu heurté quand on parle de radicalisation de la laïcité.
là, je voudrais que revenir là-dessus, parce que la laïcité, pour moi, c'est quand même un mot de liberté. Enfin, quand même, parce que je respecte beaucoup les religions, et dire que maintenant, c'est très radicalisation, je voudrais que vous disiez ce que vous entendez par là, s'il vous plaît. Merci.
Alors, c'est bien au moins, je vous dis, c'était sciemment. J'ai employé ce terme parce que la laïcité, c'est la structure même de notre société. Elle est nécessaire et on s'est toujours arrangé avec la laïcité, toujours. On n'a jamais eu de problème, comme à l'armée, comme dans les universités, j'ai mis un cursus, j'ai jamais eu de problème. Je me suis toujours arrangé avec les professeurs, avec le doyen, avec le président. On a toujours réussi à trouver des arrangements. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus d'arrangements possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis, bah, écoutez, là, on a un problème, c'est le samedi, est-ce qu'on peut le faire avant, est-ce qu'on peut décaler, je vous parle de ça, pas de la veille pour le lendemain, les examens, je les ai depuis un an. Donc j'ai un an pour changer, pour modifier. Et là, on ne parle plus. À une époque, on dit, alors c'est quoi votre problème, alors c'est quoi le samedi, expliquez-moi, peut-être que vous pouvez passer à l'oral. Des fois, on arrivait à trouver des petits arrangements, du bricolage, je l'appelle. Aujourd'hui, on dit, ah non, c'est pas possible. On n'écoute même plus le problème. On dit, c'est pas possible, la laïcité. Et donc, c'est pour ça que j'ai choqué en disant la radicalisation de la laïcité, mais c'était bien entendu pour bien montrer que parfois, eh bien, on est devenu obtus aussi dans d'autres sphères et dans d'autres milieux. Mais quand je parlais tout à l'heure de milieu associatif, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à se parler quand on est différent. Et je pense que la laïcité, justement, elle a pour but de pouvoir se parler en gardant nos spécificités, en mettant en communion nos capacités pour pouvoir, tout en étant différents, bâtir un avenir ensemble. Et pour moi, c'est ça la laïcité, c'est être capable d'être, de ne pas avoir le même mental, mais d'aller dans la même direction.
Merci. Je vais peut-être reprendre sur les différentes questions rapidement, parce que l'heure commence à tourner. Sur la première question, sur l'expérience scolaire, je pense qu'il y a quatre réponses que je pourrais faire. La première, c'est que ça s'est fait, et surtout ces derniers temps, à la suite des terribles attentats, notamment en Seine-Saint-Denis, et qu'il y a des beaux exemples en Seine-Saint-Denis, y compris dans l'enseignement public, venus des différents responsables religieux dans les établissements scolaires. Il y a aussi l'expérience du train de la mémoire avec des jeunes de différentes écoles, aussi bien des écoles professionnelles juives, chrétiennes et un centre de jeunes issus de l'islam en France. Je ne me permets de pas dire l'islam de France, mais l'islam en France, si je peux me permettre d'avoir cette expression-là, que je pourrais justifier au besoin, parce qu'il n'y a pas des chrétiens de France, il y a des chrétiens en France. Et je pense que dans la diversité de l'islam, on pourrait parler d'un islam en France et pas forcément l'islam de France. Il y a aussi une question de la laïcité dans ce petit mot qui pourrait être réfléchi. Donc, dans ce train de la mémoire qui mène pendant 2 ou 3 jours au rythme des trains de la déportation de Auschwitz, il y a la manière dont ils apprennent à se connaître tout en faisant les uns les autres des exposés, une réflexion, un dialogue autour de la question de la Shoah. Je crois que là, il y a aussi quelque chose qui, autour de l'expérience, est absolument indispensable pour la fraternité. Troisième réponse à votre question, c'est que dans les programmes de 6e et de 5e, il y a notamment en lettres la question de la Genèse, donc pour les professeurs de lettres modernes, en 6e ou en 5e, il y a la question de la traversée de la mer Rouge, de Moïse, etc., dans les programmes de 5e, et la question pour moi centrale, c'est comment on forme les professeurs, aussi bien de lettres que d'histoire, parce que ce n'est pas dans la même matière, à en parler sans que ça soit quelque chose qui blesse ceux qui sont de différentes confessions, qui d'ailleurs se retrouvent ensemble blessés. Et ça, je pense que c'est quelque chose, pas forcément par mauvais esprit des professeurs, mais parce qu'ils ne connaissent pas le fait religieux et ne se rendent pas compte comment leurs paroles peuvent blesser des différents jeunes de différentes confessions qui, du coup, se disent « Je ne peux pas parler de ma religion, je n'ai pas le droit de croire lorsque je passe la porte de l'établissement public. Je me permettrai peut-être même de donner un... Non, je ne vais pas donner d'exemple concret de la manière dont c'est vécu, parce que si c'est enregistré, après, on me le racontera, donc je ne vais pas le faire.
Mais... Je peux couper l'enregistrement, si vous voulez.
Non, mais...
L'enregistrement est en pause.
Je peux quand même vous raconter cette histoire de... Sur la radicalisation, pour moi, la radicalisation, c'est la négation de l'autre. Donc, à partir du moment où l'autre n'a plus le droit d'être autre, je suis radicalisé. Et peu m'importe que ce soit une radicalisation et l'adjectif qu'on met à côté, pour moi, l'adjectif n'importe peu. La négation que l'autre puisse être autre est une radicalisation. Qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, ce n'est pas mon problème. C'est quelque chose qui va détruire la relation et la capacité de construire la société. Toujours dans mes petits exemples à côté, la question du numérique n'est pas une question secondaire. C'est-à-dire la manière dont un certain nombre de sites poussent à un concept identitaire et de négation de l'autre. Et la manière dont, à un moment de l'adolescence, on a envie de s'identifier à des grands idéaux ou à des grandes actions, eh bien, la manière dont on fait réfléchir sur l'utilisation, la manière, nos références à des sites numériques, c'est toujours intéressant de dire quel est le site sur lequel tu vas chercher ton info et pourquoi c'est ce site-là qui est le site sur lequel tu es en train de construire ta pensée. Sur la laïcité, pour la troisième question, je ne parle ni de radicalisation de la laïcité ou pas. Pour moi, c'est un État laïque et une société qui ne l'est pas. Et à partir du moment où un État laïque veut imposer à une société d'être laïque, je pense qu'il y a une violence qui s'exerce, soit la violence d'un syncrétisme, soit la violence d'une négation, d'une forme d'identité de ce qui fait la personne. Et donc pour moi, l'État laïque, je pense que c'est indispensable à notre liberté, mais l'État laïque est la garantie d'une société qui peut ne pas l'être et où chacun peut avoir ses convictions religieuses, de conscience ou autres.
Pauline me corrigera, mais je crois que c'est pleinement l'esprit de la loi de 1905.
Hein. Ah oui. Oui, c'est une récitation de la loi de 1905.
Merci, Monseigneur. Monsieur Guy Bèche.
Oui, j'aurais trois compléments à apporter par rapport aux questions qui ont été posées. La première concernant la radicalisation, la deuxième, la laïcité. Et puis un petit éclairage sur l'islam de France, islam en France,
C'est un peu une provocation de poser cette question-là. Mais non.
Sur l'aspect radicalisation, notamment la radicalisation religieuse concernant l'islam, moi je pense qu'il y a quelques notions qu'il faut bien intégrer. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une lecture parfois extrémiste d'un certain nombre de textes. Donc il ne faut pas être dans le déni, il faut le reconnaître. Donc la dimension religieuse existe, et il ne faut pas être dans le déni pour pouvoir justement la combattre efficacement. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que quand on regarde les racines du mal, on trouve bien que ces racines ne sont pas des racines religieuses, elles sont des racines multiples, qui sont d'ordre économique, social, politique, notamment par rapport à la politique de la ville, et on parle de ghettoisation, etc. Donc je pense que par rapport à cette problématique qui est globale, notamment par rapport à des aspects d'échec scolaire, d'éclatement familial, enfin tous les cas qu'on a pu voir, Mohamed Merah, Medine Mouche, étaient dans issus de familles séparées, où le père pour Merah était en Algérie, la mère est restée en France, les enfants livrés à eux-mêmes. Medine Mouche, c'était une famille séparée, il a été placé chez des oncles. Et d'ailleurs, leurs motivations ne sont pas forcément religieuses, parce que je cite toujours cet exemple. Quand Medine Mouche a été arrêté, il y a un certain nombre de journalistes, 4 ou 5, qui étaient incarcérés en Syrie, et quand Medine Mouche a été arrêté, ils ont reconnu leur geôlier en Syrie, et ils ont fait une conférence de presse dans laquelle ils ont avoué, enfin reconnu ou témoigné du fait que pendant tous les jours d'incarcération, Medine Nemouche leur crachait toute sa haine de la société, mais avec aucune référence religieuse. Donc c'était un défouloir à l'aspect d'aller sur cette dimension religieuse et n'est qu'un prétexte, souvent. Et là, j'en viens à la formule qui a été utilisée par Olivier Roy, qui dit qu'on assiste aujourd'hui à une islamisation de la radicalisation, et non à une radicalisation de l'islam. C'est pas l'islam qui est en train de se radicaliser, c'est qu'on essaie de donner cette peinture verte, entre guillemets, à la radicalisation. Et je pense que si on a compris les deux phénomènes, le premier, c'est qu'il y a une dimension religieuse qu'il faut la combattre avec les mêmes armes. Il y a les djihadistes qui utilisent un argumentaire théologique pour pousser les jeunes au djihad, pour pousser les jeunes à ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire le fait de quitter un pays non musulman pour aller vers un pseudo-État islamique ou pays musulman. Et donc il faut combattre cet argumentaire théologique par un argumentaire théologique. Et il faut construire un discours alternatif, et le fameux conseil religieux dont j'ai parlé tout à l'heure peut y contribuer. Ça, c'est sur la radicalisation. Sur l'aspect de la laïcité, je pense qu'effectivement, à la base, la loi de 1905, c'est une loi de liberté religieuse. Il faut qu'on en consacre peut-être toute une, à l'occasion des 110 ans notamment, toute une conférence pour revenir aux sources de la laïcité. Mais c'est lorsqu'on commence à ajouter des adjectifs qu'il y a des risques de dérapage. Quand on parle de laïcité ouverte, de laïcité de bonne intelligence, effectivement, ça incite à trouver ce qu'appelle Jean Bouvereau les accommodements raisonnables pour pouvoir permettre à un étudiant juif de pouvoir passer des examens sans faire exprès d'organiser des oraux le samedi. Aujourd'hui, le CFSM est saisi par un certain nombre de plaintes de familles parce que le jour de l'Aïd pour les musulmans, le jour de fête, il y a exprès des examens qui sont programmés pour pénaliser les enfants de confession musulmane. Et ça, c'est insupportable. Et quand on peut s'arranger pour éviter des congés le jour même de fêtes juives, musulmanes ou chrétiennes, eh bien, il faut le faire. Par contre, il y a là aussi dans les adjectifs ce qu'on appelle la laïcité de combat, et là c'est une instrumentalisation de la laïcité pour viser une religion en particulier, l'islam en l'occurrence. Mais moi je dis toujours aux hommes et aux femmes politiques, faites attention aux dégâts collatéraux. Parce qu'en voulant viser l'islam, derrière on peut créer des dégâts même pour d'autres religions. Et le dernier exemple en date, c'est l'Association des maires de France qui s'est saisie du sujet des crèches. Alors que moi, en tant que musulman, ça ne me choque pas d'aller dans une mairie et de trouver une crèche avec le petit Jésus et tout le travail là. Et derrière, pourquoi pas, en quoi ça remet en cause, c'est provocateur pour les autres. On connaît les racines judéo-chrétiennes de la France, et je trouve tout à fait normal qu'on trouve ça. Après, cette instrumentalisation peut prendre forme, là j'ai cité l'exemple pour la religion chrétienne, mais pour la religion musulmane, c'est le fameux débat sur les repas de substitution. C'est-à-dire qu'on reproche à l'islam, à une religion islamique, de forcer des enfants de bas âge à manger halal, et on est en train de faire exactement ce qu'on reproche aux autres en créant une pseudo-religion laïque qui impose aux enfants de manger du porc, des enfants musulmans ou juifs, ou ceux qui ne veulent pas manger. Et donc, il faut derrière que cette notion d'offre ou de diversité de menus soit quelque chose de possible. L'important, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'est pas de manger la même chose, je crois que c'est M. Rabin qui l'a dit, c'est pas de manger la même chose, c'est d'être autour de la même table et de construire ce vivre ensemble dès le bas âge, au lieu de sortir des élèves parce qu'ils n'ont aucun autre choix que de manger du porc et les faire manger à la maison, et donc les isoler du reste de la société. Dernier point, donc sur l'islam en France et l'islam de France, bien sûr vous allez trouver des adeptes des deux formules, chacun avec ses arguments. L'islam en France, ça veut dire que c'est l'islam, il est universel, il est valable en tout temps, en tout lieu, ça c'est le discours classique, et donc il n'y a qu'un seul islam à travers la terre entière. Mais moi ça ne me choque pas de parler d'islam de France si ça passe mieux auprès de la société française. D'autant plus que dans la religion musulmane, il y a des fondements de cette mention d'islam de quelque chose. Et je cite l'exemple souvent d'un des représentants des quatre grandes écoles de jurisprudence musulmane. Vous savez qu'il y a quatre écoles.
Il y en a une qui s'appelle le Shafi'i, qui est en lien avec l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i a vécu en Irak, à Bagdad. Il a produit tout un corpus, une jurisprudence musulmane, avec des conclusions en faisant tout le travail d'ijtihad, donc d'effort intellectuel. Et après, il a migré en Égypte, au Caire, et il a refait tout un corpus et une jurisprudence musulmane totalement différente de la première. Parce que justement, il a tenu compte des spécificités de la ville et du contexte et de la société dans laquelle il vivait, à pratiquement pour la même personne. Alors que là, on est dans des peuples, dans des nations, à 14 siècles ou 20 siècles de différence, avec des lieux totalement différents. Et c'est normal qu'on tienne compte du contexte dans lequel on vit. Et d'ailleurs, cette notion de renouveau et de réforme, elle est dans la religion même. Ce n'est pas la négation de la religion, c'est la religion musulmane même. Parce qu'il y a un hadith, une parole du prophète, dans laquelle il dit... Tous les 100 ans, Dieu envoie à la Oumma islamique, à la nation islamique, celui qui va lui renouveler sa religion. Donc la notion de renouveau et de renouvellement est quelque chose de récurrent. Et c'est normal parce qu'il peut y avoir des déviations dans la pratique, des déviations dans l'interprétation, dans la compréhension. Il y a ceux qui vont vers plus de laxisme, ou il y a ceux qui vont vers plus de rigidité, on a parlé de salafistes, etc. Et donc cette notion de renouveau, c'est de revenir justement aux fondamentaux, aux finalités de la religion musulmane. C'est ça le plus important. Là aussi, il faut faire toute une conférence sur les finalités de l'islam. Ce qui est important, c'est les finalités. Ce ne sont pas les dispositions pratiques. Les dispositions pratiques peuvent changer d'un moment ou à un autre, ou d'une personne à une autre. Mais par contre, les grandes finalités sont en nombre de 5. C'est celles-là qu'il faut respecter, c'est celles-là qu'il faut rechercher en tout temps et en tout lieu, en tenant compte justement de l'environnement dans lequel on vit.
Merci beaucoup, Monsieur Bibesh. Ce qui compte, c'est les finalités et non pas la lettre, finalement, l'assignation à la lettre. D'accord. Écoutez, je crois qu'on arrive. Ça serait un bon mot de conclusion, mais Monsieur le Président, je pense que vous avez...
Non, c'était juste une idée qui m'est venue à l'écoute de cette question concernant la laïcité. C'est que lors d'une audition à l'Observatoire de la laïcité, j'avais plaidé pour une laïcité décontractée. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, pas décontractée dans le sens où, au fond, elle ne soit pas obsédée par la menace potentielle du religieux. Les religions sont souvent comprises comme une menace. Et nous plaidons pour rappeler qu'elles sont surtout des ressources pour la société. Donc ça, c'était le petit mot gentil pour la laïcité, quoi. Une laïcité décontractée, décomplexée par rapport au religieux. Et puis si vous êtes là pour apprendre des choses intelligentes, en tout cas beaucoup plus que celles que je dis, il y a un livre qui vient de sortir, qui est écrit par Jean Bobéro, et qui montre précisément qu'il décline 7 laïcités. En France, et je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est comme il y a peut-être 7 catholicismes, ou il y a 7 protestantismes, 7 islam, il y a 7 laïcités. Et donc, c'est une complexité aussi, cette affaire-là. Il n'y a pas un débat front à front, le laïc contre le religieux, mais il y a une espèce de débat permanent, une grande conversation dans le pays, et dont on essaye d'être les parties prenantes, au fond, les uns avec les autres.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, à propos de laïcité décontractée, c'est une excellente conclusion et transition, puisqu'on va pouvoir se décontracter encore plus dehors avec le cours que vous nous avez préparé. Je tiens à signaler que j'étais beaucoup plus près de Mgr Beau géographiquement que de François Claveroli, parce qu'il y a un énorme coffre-fort qui m'empêche d'être pile au milieu. Donc, donc un grand merci pour votre attention et votre présence, votre participation chaleureuse à tous. On a un petit mot dans le dehors qui vous est proposé. C'est le moment aussi de poser des questions pour ceux qui en ont sur l'Institut, sur vos auditeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis écoutez, je souhaite remercier bien sûr mes 4 intervenants et que je préfère l'exercice de venir. Avec les emplois du temps extrêmement chargés qu'ils ont tous, compte tenu des circonstances que l'on vit. Merci encore Bernardin de nous accueillir, bien sûr. Merci à tous les membres de l'IHMR d'avoir été venus ce soir participer. Et puis aux auditeurs, un petit coucou particulier aux auditeurs de la session 2 qui termine leur année. Et c'est avec une grande émotion qu'on achève cette année ensemble.
Et puis voilà, on va redémarrer en 2016 avec notre promotion. Donc nous aurons l'occasion probablement de nous revoir. Un grand merci à toutes et tous, et une très belle soirée à vous. À tout de suite au cours. Merci.